Donc vous verrez, ça va alterner entre Daniel et moi. C'est moi qui ai l'honneur de commencer. Voilà, et par faire une... Ben, on va commencer par une introduction. On va commencer par des choses assez simples. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on aura des sujets assez passionnants. On aura des choses sur l'adoration, sur l'intercession, sur prier avec la Bible. Ce genre de sujet qui, même au-delà de la maison de prière, peut être vraiment intéressant pour vous. En tout cas, je l'espère. Donc, ce soir, c'est une session d'introduction. Alors, je vais d'abord me présenter parce que c'est la maison de prière, c'est mon ministère aujourd'hui. Donc, je suis engagé là-dedans. Quand je dis c'est mon ministère, ça veut dire que j'ai mis du temps à part. Alors, pour le moment, je suis à mi-temps depuis 2015. Donc, ça fait 4 ans maintenant, un peu plus. J'ai fait le choix de mettre à mi-temps à part de mon temps pour servir dans les maisons de prière. C'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie et je voudrais vous expliquer comment j'en suis arrivé là un tout petit peu. Alors, en fait, à la base, on va dire, ce que je faisais, c'est que je conduisais la louange dans l'église où j'étais. J'ai commencé à Marseille, puis en région parisienne, puis à Nantes. Et puis, en 2012, le Seigneur m'a attrapé avec un mouvement qui est en train de naître en France, mais qui avait déjà commencé dans le monde, qui est le mouvement des maisons de prière. Et il m'a attrapé d'une manière totalement surprenante pendant une conférence qui avait lieu à Nantes. Le Seigneur me dit « maison de prière ». Mais moi, j'avais déjà entendu le mot, mais ça ne me parlait pas du tout. J'arrivais pas à mettre quelque chose derrière. Et puis, j'en parle à une bonne amie, peut-être certaines la connaissent, qui s'appelle Fabienne Ponce, qui était impliquée dans ce mouvement-là des maisons de prière. Et je lui demande où c'est que je peux commencer. Et elle me dit, ça tombe bien, puisqu'on a une conférence qui arrive à Nantes, là où tu habites. Et pendant cette conférence, on avait choisi de mettre un endroit à part pour prier en continu pendant toute la conférence. C'est-à-dire un endroit de prière où il y ait de la prière jour et nuit, du début à la fin de la conférence, donc pendant 3 jours et demi. Et on se demandait à qui on allait confier ça, et puisque c'est toi qui appelles, et c'est toi qui vas t'en occuper. Alors j'ai fait, il s'agit de faire une sorte de rotation, on appelle des gens de toutes les églises en disant, il y a une conférence, est-ce que vous voulez venir? Vous prenez un créneau d'une heure dans le planning, on fait un planning, hein, on découpe le temps en tranches d'une heure, et puis vous prenez une heure pour prier, adorer, et puis ça fera... ça fera une louange en continu, quoi, pendant le temps de la conférence. Et il s'est passé quelque chose de fabuleux. Ça a été vraiment, au départ, je pensais que c'était juste ça, et puis en fait, c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. Et à la première veille, je m'en souviens comme si c'était hier, le Saint-Esprit me tombe dessus et me dit, c'est ça que je veux que tu fasses. Et alors, pendant une heure, moi qui suis, j'étais le responsable de ça, donc j'essayais d'avoir une certaine consistance devant ceux à qui je présentais le projet. Mais dès que la première veille a commencé, j'ai commencé à faire « Oh Seigneur !» Je pleurais toutes les larmes de mon corps. « Je suis fait pour ça !»« Je suis fait pour ça, pour t'adorer !» Et j'étais complètement saisi par la présence de Dieu. Ce qui m'a touché le plus, c'est le fait que, dans une grande simplicité, des gens se mettaient à adorer Dieu en permanence, de toute église différente. Donc il n'y avait pas du tout de... C'était dans un lieu qui était à part, qui était confortable, où il y avait de la louange, de la prière. Les gens allaient, venaient, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Et tout le monde, en fait, participait à cette adoration continue. Et il y avait une atmosphère du ciel, en fait, dans cet endroit. Et c'était vraiment fabuleux. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu était en train de faire quelque chose de spécial. Et à partir de là, j'ai commencé à m'engager là-dedans. Donc en fait, à la fin de cette conférence, avec ceux avec qui on avait organisé ça, on a dit, on n'arrête pas et on continue à faire ça. Et donc on a trouvé un autre lieu à part, et puis on a commencé à mettre des temps de prière, etc. Et c'est comme ça qu'est née la maison de prière de Nantes, qui existe toujours aujourd'hui, 7 ans après, avec une équipe. Et puis je suis, donc en 2015, j'ai fait une formation qui s'appelle Melchisedec à Toulouse, où j'ai appris des choses sur la prière et les maisons de prière. J'ai vraiment découvert l'intimité avec Dieu d'une façon nouvelle. Et à la fin de cette formation, j'ai senti que Dieu m'appelait à rentrer dans ce ministère-là. Alors, je vous explique un petit peu mon parcours, mais vous savez toujours pas ce qu'est une maison de prière. On va essayer de le découvrir ensemble ce soir. Il y a plein de façons d'expliquer, de présenter ce qu'est une maison de prière. La façon dont je vais vous présenter ça aujourd'hui, c'est peut-être la façon qui est la mienne d'abord, parce que je pense que d'autres pourraient le présenter d'une manière différente. Et puis c'est la façon dont je le comprends, dont je la comprends aujourd'hui, sachant que j'ai commencé donc il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012, ça fait 7 ans. Mais c'est vraiment devenu un style de vie pour moi et je veux partager là où j'en suis de mon chemin. Et peut-être que la définition changera encore un peu dans les prochaines années. Ça reste un mouvement assez jeune et je vais juste vous dire un mot sur le mouvement des maisons de prière. Donc en fait, la prière, ce qu'on appelle la prière perpétuelle ou le fait de prier en continu, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça par contre, ça existe depuis des siècles et des siècles. Je vous raconterai un des exemples de ça. Mais par contre, depuis la fin des années 90, en fait, ce mouvement-là a ressaisi le peuple de Dieu dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier, il y a commencé à avoir des gens qui reçoivent de l'esprit d'ouvrir des lieux de prière destinés à la prière et l'adoration continue. Et j'en ai rencontré plein, et c'est pas du tout quelqu'un qui a eu une bonne idée et qui a dit aux autres « faites pareil » et qui ont fait pareil. C'est en fait des gens partout dans le monde qui ont reçu la même vision au même moment. Dieu leur dit « fais ça ». Et des fois c'est très simple, hein. C'est juste quelqu'un qui prend une pièce avec une autre personne et qui commence à prier, ça commence comme ça. Mais partout dans le monde. Et aujourd'hui, alors on ne sait pas exactement combien il y a de maisons de prière dans le monde, mais c'est en dizaines de milliers qui se sont ouvertes depuis la fin des années 90. Donc il se passe quelque chose. Il y a un mouvement de Dieu qui est en train de saisir le peuple de Dieu pour redécouvrir quelque chose. Et on va essayer de voir de quoi il s'agit. Ensemble. Alors, ce soir, je voudrais simplement essayer de vous poser cette question, de nous poser cette question ensemble. Est-ce que ça va marcher? C'est là où ça marchait tout à l'heure, évidemment, sinon c'est pas drôle. À moins qu'il ait touché là-bas, on va voir si ça marche ou pas. Il est lancé le... Yes, merci. Pourquoi une maison de prière? Sous-titre, c'est quoi le projet? Sous-entendu, c'est quoi le projet de Dieu au travers de ce mouvement-là? Alors, juste pendant un instant, avant même qu'on commence, je voudrais vous inviter à prendre une petite minute pour vous-même et à vous poser la question. Alors, si vous avez de quoi noter, vous pouvez le faire. Mais pourquoi, à votre avis, Dieu est en train de faire naître un mouvement de prière dans le monde? Qu'est-ce qui en fait la spécificité? Qu'est-ce qui fait... Vous comprenez la question, hein? C'est par rapport à qu'est-ce qui est particulier dans ce mouvement. Ok? Alors on va juste prendre une minute pour ça. Ok. Alors, je ne vais pas forcément vous demander de partager ce que vous avez reçu, mais ça me semblait important que ce soit votre cœur qui essaie de chercher un petit peu, le cœur de Dieu ou ce qu'il veut faire avec ce mouvement des maisons de prière. Et puis, je vais essayer de vous donner trois caractéristiques qui me semblent absolument primordial pour comprendre la spécificité de ce qu'est une maison de prière. Alors, la première de ces spécificités, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Voilà, donc ça c'est censé représenter le cœur à cœur. Vous voyez les deux cœurs entrelacés. La première caractéristique d'une maison de prière, c'est que c'est un lieu que l'on met à part. Et que l'on met à part, bien sûr, pour Dieu. Parce que je crois qu'au travers du mouvement de prière, le Seigneur veut nous rencontrer à nouveau. Et ça part d'un principe qui est que Dieu est un Dieu de relation. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais j'insiste tellement là-dessus. Pour moi, c'est absolument fondamental quand on veut comprendre ce qu'est une maison de prière. Quand je dis que Dieu est un Dieu de relation, ça veut dire que la première chose qu'il désire avec nous, avant même que nous fassions des choses pour lui, c'est que nous soyons en communion avec son cœur. Et je dis souvent aussi ça, la nouvelle alliance, donc inaugurée par la croix, c'est en fait un chemin qui a été réouvert pour nous par Jésus-Christ vers la présence même de Dieu, vers la présence même du Père, vers un accès qui redevient ouvert à son cœur. C'est le principe de la nouvelle alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans communion, et il n'y a pas de communion sans relation. Donc l'alliance, l'objectif d'une alliance, c'est de créer une communion. C'est la même chose pour ceux qui ont le privilège d'être mariés. Mon alliance avec ma femme, le mariage que j'ai fait avec elle, c'est que je me suis engagé à être en communion avec elle. Parce que si je me marie avec elle et puis qu'on est à deux endroits différents, eh ben, ça va être compliqué. Et il n'y a pas de communion. Donc là, c'est, hop, alliance, communion. Donc on communie ensemble. Et il n'y a pas de communion sans relation, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que je redis souvent, mais vous savez très bien, dans un couple, encore une fois, pour ceux qui sont mariés, qu'on peut habiter sous le même toit et pas se parler. Et pas vraiment être en relation l'un avec l'autre. Et pourtant, si on veut qu'un mariage soit porteur de fruits, soit bénéfique et aille au bout de ce qu'il est censé faire, eh ben, il faut qu'on ait du temps entre époux, ensemble, et du temps de qualité, c'est absolument indispensable. Et bien, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu se réjouit de communier avec nous, de faire alliance avec nous, d'abord. C'est lui qui a commencé. Il fait alliance avec nous. Nous faisons alliance avec lui. Nous communions avec lui. Nous sommes en relation avec lui. OK? Ça, c'est fondamental. Alors, on connaît très bien l'intimité. Enfin, on connaît très bien. En tout cas, on connaît. J'espère que vous vivez une intimité avec Dieu, personnellement. Alors c'est toujours... ça peut être plus ou moins, là où vous en êtes dans votre parcours. Mais le fait d'avoir une relation personnelle intime avec Dieu, c'est quelque chose qui nous est familier. Mais la maison de prière, et c'est là où il va y avoir quelque chose de particulier, nous invite à vivre cette intimité ensemble. C'est-à-dire que collectivement... nous allons vivre un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ça la première chose que Dieu cherche et que nous cherchons avec lui, c'est communier avec son cœur. Et avoir un temps de qualité pour communier avec son cœur. Alors, je crois que cette notion-là, peut-être, a été un peu oubliée dans nos milieux. Et je pense, mais ça c'est un avis, hein, je pense que dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de moments où l'Église était en communion avec le cœur de Dieu, et puis des moments où le cœur de l'Église s'est un peu éloigné du cœur de Dieu. Et je crois que une des raisons pour lesquelles il y a un mouvement de prière aujourd'hui qui revient, c'est parce que Dieu désire à nouveau un cœur à cœur avec son épouse, et qu'on redécouvre ce qu'est la prière collective et la recherche collective du cœur de Dieu. Alors ça veut dire que quand on va mettre en place une maison de prière quelque part, on va mettre un lieu, un espace qui va être dédié à passer du temps avec Dieu. Donc une des caractéristiques de la maison de prière, c'est d'ouvrir un espace à part, un espace qui est fait pour ça. D'accord? Donc ici, par exemple, la maison de prière à Angers, la salle de prière se trouve là-haut et c'est notre point de rendez-vous. Ok, pour nous retrouver, pour dire ce lieu est un lieu qu'on met à part, qui sert à ça, pour Dieu. J'insiste un peu là-dessus parce que finalement nous mettons à part dans nos vies ce qui nous est précieux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose nous est important, on va pas l'utiliser n'importe comment. Quel exemple je pourrais prendre? Peut-être que vous avez un service, un joli service, des plats, des assiettes, des couverts, que vous gardez pour les occasions spéciales. Moi, à la maison, j'ai ça, j'ai la chance, on me l'a offert à mon mariage, hein. Donc j'ai un service de mariage, des fois c'est souvent comme ça qu'on fait ce petit genre de service, ça coûte un peu cher. Mais c'est le service que je sors pour les grandes occasions. Donc en fait, souvent quand quelque chose nous est précieux, on met cette chose à part. Et je suis un fervent défenseur du fait de dire qu'une maison de prière, c'est avant tout une mise à part. Parce qu'on va dire à Dieu, et on va le manifester réellement, que Dieu est précieux pour nous, et que l'espace qu'on veut lui ouvrir, eh ben, c'est un espace où on veut l'accueillir lui, et que c'est pas n'importe quel espace. C'est pas un espace où on fait la cuisine en même temps, où on fait d'autres choses en même temps. C'est un espace qui est fait pour ça. Toujours dans cette notion d'avoir un cœur à cœur, un espace dans lequel on peut être en cœur à cœur avec Dieu. Et ça aussi je l'ai dit ici à l'église pour ceux qui étaient là. Et si nous écoutions ce que Dieu dit de sa maison, de l'endroit où il habite. Donc c'est Ésaïe 56 verset 7 qui est un verset fondamental pour tous ceux qui veulent vivre la maison de prière. Où il est écrit, je les amènerai, donc c'est Dieu qui parle de son peuple, et il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc Dieu donne une identité éternelle à sa maison, et lui donne un nom, il lui dit, c'est ma maison de prière. Alors rapidement, maison et prière. Maison, en hébreu, c'est bayit. C'est à la fois la demeure, donc l'endroit où Dieu est, où on habite, où Dieu habite. Et c'est à la fois la notion de famille, où Dieu habite au milieu de son peuple. Donc en réalité, nous qui sommes là rassemblés, la maison de Dieu, au sens où le fait d'être ensemble veut dire que Dieu demeure parmi les hommes et que nous demeurons avec lui. Et ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. Dieu désire habiter au milieu de son peuple et être adoré par son peuple. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Et rentre dans la grande famille et dans la grande maison des adorateurs. Il veut qu'on se réjouisse en lui. Et lui veut se réjouir en nous. Vous avez remarqué le mot réjouir dans ce, je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc c'est une magnifique perspective que Dieu nous donne du fait d'habiter au milieu de nous. Et on le voit dans l'Apocalypse, hein. Dans l'Apocalypse, à la fin des temps, Dieu fait sa demeure au milieu de son peuple pour l'éternité. Et ça y est, la réconciliation est faite avec tous ceux qui auront choisi le Seigneur. Donc ça, c'est la notion de maison, c'est une relation d'amour éternel que Dieu nous propose. Et puis la notion de prière, alors là par contre, ça c'est bizarre, parce que la prière, je sais pas de quel milieu vous venez, mais moi on m'a expliqué que la prière, c'était quand j'avais besoin d'une place de parking. Je demande à Dieu, je lui dis, Seigneur, donne-moi une place de parking. Voilà, hein, c'est un peu, moi on m'a expliqué ça. Donc je vois pas pourquoi Dieu ferait une habitation au milieu des prières, ça me paraît un peu... J'ai trouvé ça bizarre pendant tout un temps, et en tout cas ça me parlait pas beaucoup. Mais en fait, bien sûr, la prière c'est pas ça. La prière c'est ce qui fonde notre identité au travers de la relation que nous avons avec Dieu. La prière c'est dépendre de Dieu, c'est choisir Dieu, c'est être en communion avec Dieu, c'est relationner avec Dieu. C'est l'action humaine qui a la plus grande valeur de l'univers, parce qu'à ce moment-là, nous sommes les créatures qui avons besoin du Créateur, qui avons besoin de sa présence, qui avons besoin de son cœur, qui sommes dépendants de lui en toute chose. Et c'est aussi au travers de cette connexion qui est accessible à tous que Dieu libère ses ressources pour nous, et qu'il est glorifié et que nous sommes dans la joie. C'est tout ça la prière. Waouh, quelle perspective! Et la prière, du coup, ça fait de cette maison de Dieu un sanctuaire, un lieu divin, un lieu où Dieu peut dire, ici, c'est chez moi. Et c'est ça que nous voulons vivre. Un lieu, être nous, être, vous avez compris, un lieu, c'est nous, hein. Être ensemble, un lieu où Dieu dit, ici, c'est chez moi. Waouh. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc ça, c'était le premier point. Ah oui, juste pour terminer là-dessus, pardon. Donc je les réjouirai dans ma maison de prière. Ça veut dire que le fait de passer du temps avec Dieu dans la maison de prière, c'est pas seulement lui demander des choses pour pouvoir accomplir des choses pour lui, mais en soi, c'est le fait de nous réjouir en lui déjà, de commencer par nous réjouir en lui. Et il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Dieu est au centre dans une maison de prière. C'est lui que nous cherchons, c'est lui que nous aimons, c'est son cœur que nous voulons. Ok, dans le cœur à cœur, ça va? Je vous ai pas perdu encore? Ok. Alors, deuxième chose, une maison de prière, peut-être un peu différemment d'autres choses, a une aspiration à fonctionner en permanence, jour et nuit, 24/7 on dit aussi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est les Américains qui disent ça. 24/7. La Bible dit plutôt jour et nuit. C'est ça l'expression biblique. Alors, ce qui fait la différence avec peut-être des réunions de prière ou des rencontres de prière, c'est qu'une maison de prière, elle a cette vocation continue, en fait. Alors, bien sûr, quand on commence, comme chez nous, on commence pas par faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que je vous ai raconté mon témoignage. Moi, j'ai commencé par là, en fait. Donc, j'ai déjà goûté à ça. Et ça veut dire aussi que dans la façon dont on fonctionne, on doit aspirer à ces choses-là. Et on doit se dire que c'est pas seulement venir se voir une fois par semaine pour prier ensemble, même si c'est très agréable de le faire, mais c'est aussi aspirer à ce qu'il y ait cette continuité qui se mette en place. Pourquoi ? Alors c'est simplement pour qu'il en soit sur la terre comme il est au ciel. Le modèle céleste de la présence de Dieu, c'est le trône. On voit ça dans Apocalypse 4, où on voit l'adoration qui est perpétuelle autour du trône de Dieu. Et on dit souvent ça, on dit qu'il en soit aussi fait sur la terre comme il est fait au ciel. Eh bien, dans l'Apocalypse, nous avons cette vision de commencer au ciel et comment ce fonctionnement jour et nuit qui est là-haut cherche finalement un écho sur la terre. Et c'est aussi à ça que nous devons répondre. Pourquoi ? Parce que Dieu est digne d'une adoration permanente. Et ce 24-7, il répond à la dignité de Dieu d'être adoré en permanence, qui est un parfum qui monte jour et nuit pour lui. Et puisque je vous ai parlé d'intimité tout à l'heure, que je vous ai dit, le premier rôle d'une maison de prière, c'est qu'on soit dans l'intimité avec Dieu, dans ce cœur à cœur ensemble. L'intimité s'écrit T-E-M-P-S. L'intimité s'écrit temps. Si nous voulons une intimité avec Dieu, il est indispensable de lui donner du temps. On est dans une société, et même dans l'Église moderne, où on n'a pas beaucoup le temps de faire les choses. Et l'un des plus grands actes d'adoration qu'on peut faire de nos jours, c'est d'arriver à donner du temps à Dieu. Et là, tout commence à devenir possible. J'insiste bien, toute communauté, toute maison de prière qui désire aller vers ce mouvement des maisons de prière et vers ce désir de communier avec Dieu devrait chercher la continuité, ce désir d'aller vers du 24-7. Alors il y a des façons de faire, ça se fait progressivement, mais c'est dans le cœur, vous comprenez ? Que c'est important que ça se passe. C'est pas juste, c'est pas une méthode, c'est une compréhension du cœur. Vous savez que ce mouvement de prière, je vous ai dit, il est mondial aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce côté perpétuel, il se produit aussi dans les nations et nous ne sommes pas tout seuls en fait. Quand nous adorons Dieu, nous participons à un mouvement qui est plus grand que nous, qui est un grand mouvement d'adoration qui est unique en fait. Et nous sommes tous partie prenante de quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est vraiment dans ce mouvement-là qu'est l'impact du mouvement de prière. Alors ça va nous obliger, et c'est vers ça aussi que je voudrais que nous allions ce soir, ça va nous obliger à changer de logique. Et une des choses dont je me suis rendu compte avec le mouvement des maisons de prière, mais je m'en étais pas aperçu tout de suite, je m'en suis aperçu par rapport à ma propre vie, à l'impact que ça a eu sur ma vie et l'impact que ça avait sur la vie des gens. C'est qu'il faut changer de logique. La maison de prière, ça nous fait vraiment changer de façon de voir notre vie chrétienne. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ça nous fait sortir d'une logique de réunion pour entrer dans une logique de style de vie. Cette continuité-là, ou le fait de mettre du temps à part pour Dieu chaque semaine, nous oblige à revoir un peu nos priorités et notre temps. Si on va vers du 24-7, ça veut dire que certains vont prier la nuit. Oui, c'est logique. Donc, il y a des gens qui vont se lever, qui vont dire, moi, je sens un appel du Seigneur à prier la nuit. Et il y en a dans le monde, je ne sais pas, peut-être que l'un de vous est appelé, vous ne le savez pas encore, à prier la nuit. Il y en a, j'en connais. C'est les fous furieux du mouvement de prière. C'est moi, je veux faire la nuit, je veux la totale, quoi. C'est-à-dire, je veux pas juste un peu, je veux le truc ultime, quoi. Il y a des formations qui sont spécifiques pour ceux qui font des veilles la nuit, etc. Enfin, c'est très particulier, mais c'est vraiment génial. Donc ça, je force le trait, mais c'est pour expliquer cette notion-là. Et on va commencer à mettre du temps à part pour Dieu. Et on va se mettre à disposition et notre planning, notre agenda de la semaine va devenir un peu différent. On va pas être juste dans une logique de réunion, mais on va rentrer dans une logique de style de vie. Que ça devienne le style de vie de l'Église d'être centré sur Dieu et d'avoir du temps avec lui. Que ça devienne permanent, une habitude. Et en fait, moi, ça a changé complètement ma logique. Au départ, ma première veille, je la faisais entre midi et deux parce que je travaillais. Donc, un des jours de la semaine où je travaillais, le midi, entre midi et deux, je venais à la maison de prière faire ma veille de prière, si vous voulez. Et c'était super compliqué. Au départ, c'était galère parce que si vous bossez le matin, vous avez toute votre début de journée là qui est là, le stress, les choses à faire là. Vous arrivez dans le temps de présence de Dieu, vous avez un temps pour déposer tout ça. Puis à peine j'arrivais, j'étais bien. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, hop, c'est fini, faut que je retourne bosser. Je vous assure, c'était juste, j'ai pas mis longtemps parce que ça devenait plus possible. J'avais envie que ce temps-là, il soit pas comme une activité que je dois remplir dans ma journée. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais envie que ce soit quelque chose qui soit plus qualitatif. J'avais soif, en fait. Et en fait, plus vous priez, et plus vous avez envie de prier. Alors ça, c'est un petit avertissement que je vous donne aussi, hein. Si vous rentrez là-dedans, si vous avez le désir vraiment de communier avec Dieu, plus vous allez prier, plus vous allez avoir envie de prier. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au départ, je raconte ça aussi souvent, donc j'ai décidé de mettre une heure à part chaque semaine, on commence doucement, hein. Et au bout de 20 minutes, je me dis, ok, j'ai fait 20 minutes, qu'est-ce que je fais après? Enfin, je regardais l'heure, hein, j'étais là, j'ai dit, oh, il reste 40 minutes! Bon, alors on va faire autre chose. Puis vous savez, il y avait toujours la matinée, etc. J'étais pas du tout dans le mouvement. Aujourd'hui, je sais pas combien de temps je prie, je veux pas, c'est pas une question de quantité, vous comprenez, hein, c'est pas l'idée, mais je prie des heures et ça va. Et non seulement ça va, mais même aujourd'hui là, je sens le désir déjà d'encore plus. Et plus on passe du temps avec Dieu, et plus on a envie de passer du temps avec Dieu. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a un impact. C'est un impact sur nos vies, en fait, de mettre vraiment du temps à part avec Dieu, de communier avec lui. Donc c'est pour ça que la notion de temps est aussi importante. Donc on va changer cette logique. On va pas être dans une logique de réunion, on va être dans une logique de style de vie. On va pas être dans une logique d'activité. Et ça, je vous encourage aussi, si la maison de prière ça vous intéresse, à ne pas voir la maison de prière comme une activité que vous feriez la semaine en disant, tiens, faut que j'aille faire ça, comme si vous alliez faire du tir à l'arc ou un atelier quelconque. C'est pas ça du tout. On est dans une logique de respiration. Ça veut dire que je vais à la maison de prière parce que c'est nécessaire. Parce que ça fait partie de ma vie. Parce que communier avec Dieu, c'est pas une activité. C'est je vais à la source, en fait. Et je respire. Et je vis. Mais d'ailleurs, ce qui est vrai pour la maison de prière est vrai pour votre prière à vous. Le temps que vous passez avec Dieu, je vous encourage. Si vous le faites comme étant une espèce de rituel, vous allez peut-être vite vous lasser. Mais quand on prie avec le désir de communier avec Dieu, ça devient une respiration, ça devient quelque chose qui est indispensable. Ça change notre façon de vivre, notre style de vie. Donc on change de logique. La prière qui est ordonnée par Dieu, c'est celle qui ne cesse pas. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Mais c'est bien comme ça que Dieu, quand Dieu parle de prière, il dit très souvent, quand il parle, l'associe à la prière, au fait de prier sans cesse. Donc il ne voit pas ça comme une activité, le Seigneur. Hein. Il voit ça comme une respiration du peuple de Dieu, une nécessité. Quelques extraits bibliques, quand il était question... quand cette prière perpétuelle prenait dans le peuple d'Israël la forme de cet autel, vous savez, sur lequel on faisait brûler les parfums jour et nuit, vous connaissez ça? Bien, l'Éternel a ordonné, il a dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Donc les Lévites, ceux qui étaient chargés du culte à l'époque d'Israël, devaient entretenir le feu sur l'autel jour et nuit. Il ne devait jamais s'éteindre. Parce que le cœur de Dieu, c'est la prière sans cesse. Jésus a dit, Donc là, je vais le citer, Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours et sans se relâcher. Jésus lui-même a expliqué, a enseigné que la prière n'était pas une activité, c'était quelque chose qui devait faire partie du style de vie de ses disciples. C'est pas un truc qu'on enseigne souvent. On veut être des disciples du Christ, on veut suivre son enseignement. Est-ce que ces choses-là, on arrive à les comprendre et surtout à les mettre en pratique? Paul a dit aussi dans sa lettre aux Thessaloniciens, priez sans cesse, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc la prière n'est pas quelque chose qui doit cesser, c'est quelque chose qui doit être permanent. Alors je voudrais vous poser une question, maintenant, et vous donner quelque chose d'un peu enthousiasmant. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis à Angers si on avait un espace où la prière, l'adoration montait de manière permanente, perpétuelle sur notre ville, que Dieu était adoré en permanence par des gens qui se rassemblent et qui se relaient et qui cherchent le cœur de Dieu en permanence? Est-ce que vous ne croyez pas que quelque chose comme ça changerait l'atmosphère de cette ville? Est-ce que vous ne croyez pas que le centre de gravité deviendrait pas le Seigneur? Là, tout deviendrait possible. Moi, c'est mon rêve. C'est ma vision. C'est ça que je porte et c'est ce qui me motive aussi à m'investir ici, dans cette maison de prière à Angers. Très simplement, très humblement, mais avec quand même un désir au fond de mon cœur de me dire, j'aimerais, mais ça c'est dans les mains de Dieu, mais j'ai le désir qu'il y ait un espace dans lequel des gens puissent communier avec Dieu en permanence et qu'on soit tous ensemble à chercher le cœur de Dieu et que cette adoration monte en permanence sur la ville parce qu'il en est digne. Je suis absolument persuadé que ça changerait l'atmosphère de la ville, non seulement dans les églises, dans l'unité des églises, mais aussi dans les autorités, mais aussi dans la politique, dans l'éducation. Je suis sûr que l'impact serait extraordinaire, que les vies seraient sauvées, qu'il y aurait une nouvelle aspiration pour l'évangélisation, pour l'aide de l'autre. Je suis sûr que ça changerait tout. Et je crois que c'est comme ça que Dieu veut faire, c'est sa stratégie. Et c'est un peu à ça que je vous invite ce soir. Participer à la maison de prière, c'est aussi participer à ça. C'est aussi être avec le cœur de Dieu pour la ville. Vous avez remarqué, peut-être qu'on prie souvent pour la ville. Ça revient quand même régulièrement. Pour des divers sujets. Parce que Dieu aime Angers. Et Dieu a envie de transformer Angers par sa présence. Et c'est à ça que nous participons, en participant à la maison de prière. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ce choix audacieux? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire des Moraves. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des Moraves? Daniel, je sais. Isabelle, tu connais le nom? Ouais. Ok. Il y a des gens cultivés, parce que c'est pas très connu comme histoire. Mais pourtant, les Moraves, c'est un peuple, mais c'est une tribu, en fait, ou une ethnie, qui se trouve en République tchèque, qui se trouvait en République tchèque au XVIIIe siècle. Et ils ont été persécutés dans leur pays et se sont réfugiés, chez un comte, en fait, qui s'appelle le comte Zuzendorf, peu importe. Mais qui les a accueillis, en fait, et ils ont, à un moment donné, ils ont reçu qu'ils devaient prier sans cesse. Donc ils ont reçu, à cette époque-là, le mandat et la mission de prier sans cesse. Donc en fait, ils faisaient des relais, alors je ne sais plus exactement comment, mais les familles s'étaient réparties le temps, et pendant toute la semaine, les familles se relayaient pour prier, ils avaient une sorte de tour de prière, et ils ont commencé à prier, le Seigneur les a mis à part pour ça. Et ils ont commencé cette réunion de prière, en fait. En fait, ils ont commencé par une réunion de prière. Nous aussi, des fois, on commence par une réunion de prière. Et en fait, c'est une réunion de prière qui ne s'est pas arrêtée. Et qui a duré plus de 100 ans. Sans jamais s'arrêter. Donc imaginez, on démarre la réunion de prière ce soir, et puis dans 100 ans, on y est encore. Certains vont trouver que c'est l'enfer, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que les Moraves ont envoyé des milliers des milliers de missionnaires dans le monde entier. Ce n'est pas très connu. Mais ils font partie des gens qui ont impulsé les premiers mouvements missionnaires, notamment auprès de populations qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Parce que Dieu leur a tellement communiqué le poids de son cœur pour les gens qui ne le connaissaient pas, qu'ils envoyaient, et ils envoyaient, et ils envoyaient, et ils envoyaient des missionnaires. Et le mouvement Morave a été un des premiers mouvements missionnaires du XVIIIe siècle à avoir autant d'impact dans le monde entier. Ils étaient connus dans les nations entières. Dans toutes les nations, on entendait parler des Moraves à cette époque-là. Et vraiment, il y a eu une puissance de transformation dans cette réunion de prière qui a commencé sans s'arrêter, qui a juste été extraordinaire. Et beaucoup d'historiens de l'Église le disent, la prière perpétuelle façonne l'histoire. La prière perpétuelle est à l'origine de tous les mouvements de réveil que vous connaissez, si vous connaissez des mouvements de réveil. Il n'y a aucun de ces mouvements de réveil qui est né sans qu'il y ait des gens qui décident de se mettre à part pour prier sur une période longue donnée. Vous pouvez penser à Azusa Street, vous pouvez penser au réveil du Pays de Galles, etc. Tous ces réveils-là sont nés de la prière. Donc, on veut souvent le réveil, mais on veut les effets du réveil. Mais ce qui est important dans le réveil, c'est la profondeur. Et je crois, dans un réveil, en France, à Angers, je crois que le plan de Dieu est de transformer notre ville, notre nation. Et ça passera par des gens qui sont intimes avec Dieu. Voilà pourquoi c'est important, la prière perpétuelle. J'espère vous avoir un peu convaincu. Peut-être au départ, vous n'étiez pas très convaincu. J'espère que ça vous aura un petit peu convaincu de ça. Et puis le troisième et dernier point, et je l'ai déjà évoqué, c'est cette notion de style de vie, cette culture de la prière que Dieu veut redonner à l'Église. Et c'est de cette façon-là que Dieu veut impacter aujourd'hui le monde. Je le crois vraiment. Et là, le premier point qui est très important, j'en ai déjà parlé, c'est que cette culture de prière, elle est multi-église. Et ça aussi, c'est une caractéristique d'une maison de prière, à mon avis. Mais là, peut-être d'autres vous diraient autrement, mais moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est que la prière d'un collectif n'accomplisse pleinement sa puissance que quand des chrétiens de différentes dénominations se rassemblent ensemble pour chercher Dieu. Là, il se passe quelque chose qu'il ne se passe pas si c'est juste une église. Mais si ça franchit les murs des églises, alors là, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu parle de son église dans la parole, il parle de son corps. On n'a pas plusieurs corps, on a un corps, même s'il y a des organes différents. Vous connaissez ça, hein? Il parle de sa fiancée. Il parle de son peuple. Dieu est multi-église, voilà. Enfin, ou disons plutôt que Dieu n'a pas cette séparation que nous on met. Dieu, il voit son peuple comme un, avec des différences. C'est pas une uniformité, mais c'est un seul peuple et un seul corps. Hein? Paul dit ça. Nous sommes un seul corps. On utilise souvent cette expression pour parler à l'intérieur d'une église, pour dire que ceux qui font l'accueil, ceux qui font la louange, ceux qui font l'évangélisation, ceux qui enseignent, tout ça, on est un seul corps. C'est vrai, mais un seul corps, c'est valable aussi pour les différentes églises du monde entier. Les églises, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme la tête de l'église, font partie du même corps. Je rêve, mes amis, que ce lieu dont on parle depuis tout à l'heure, cet espace de temps, et cet endroit où on se retrouve pour adorer Dieu, on le fasse avec des chrétiens de tous horizons. Je crois vraiment que ça, ça a un petit goût du ciel. Et alors, si on a la chance en plus, moi, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai vécu des réunions de prière multi-église, parce que c'est quelque chose qu'on organisait régulièrement à Nantes. C'était des réunions, hein, c'était pas encore perpétuel, mais il y avait un avant-goût. Il y a des soirées, on avait 7-8 églises, des catholiques, des protestants, des ADD, qui étaient ensemble, mais ils avaient qu'un seul but, c'était adorer Dieu ensemble. Et si en plus vous avez la chance d'avoir différentes générations, des plus petits aux plus grands, des nations différentes, des gens qui viennent de nations différentes qui se rassemblent et qu'on est tous en train d'adorer Dieu, mais moi je vous assure, vous avez l'impression d'être au ciel. Parce que le ciel, c'est ça. C'est un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation qui élève un seul nom, celui de Jésus-Christ au milieu d'elle. Waouh! Et ça, vraiment, on peut, et on est même invité, à commencer à le vivre dès maintenant. Donc, la maison de prière va au-delà des barrières dénominationnelles. Et l'idée de mettre en place une maison de prière dans une ville, pour être concret aussi, c'est une idée de s'adresser aux différentes églises de la ville pour dire c'est un mouvement dans lequel toutes les églises sont invitées. C'est pas, on est capable de faire des choses ensemble. Sommes-nous capables d'adorer Dieu ensemble? Le défi est lancé. Mais vous savez, moi je suis, je dis ça souvent, je suis un enfant de l'unité contrariée. C'est-à-dire que mon père, à Marseille, il était pasteur, il avait très à cœur l'unité des chrétiens. Mais avoir à cœur l'unité des chrétiens dans une ville, c'est chaud, quoi. C'est vraiment difficile. Parce que les relations sont tellement compliquées. C'est pas vrai que c'est compliqué. Vous voulez faire un truc avec différentes églises, demandez à Bernard, mais il est pas là, il est rentré, mais demandez à Bernard si c'est facile. Pourtant, lui, hein, il œuvre pour ça, vous le savez, hein. Mais c'est tellement difficile, ça demande des années, ça demande, ça marche pas toujours. Et encore ici, ça se passe plutôt pas mal de ce que j'ai compris. Peut-être que le terrain est un peu plus favorable. Mais par exemple à Nantes ou à Marseille, c'était une catastrophe. Voilà, on va le dire, c'était catastrophique. Tu disais, on invite un tel, l'autre disait, je viens pas. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, tout le temps. Et moi, j'ai vu mon père. Mais devenir dingue de ça, vous voyez, il en avait marre de ça, ça le bouffait. Il dit, on peut pas juste à un moment donné faire un truc ensemble, c'est si compliqué que ça. Bah ouais, c'était super compliqué. Mais j'ai découvert une chose, c'est que ce qui nous unit finalement, c'est pas forcément juste de faire des activités ensemble. Parce qu'en général, quand on fait des activités ensemble dans l'unité, on va en faire le moins possible, vous savez, le plus petit dénominateur commun. On va essayer d'éviter de froisser personne. Mais moi, je crois que la véritable unité, elle se fait quand on tourne tous les regards vers Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est le même. Et finalement, quand on est tous captivés par le regard de Jésus, ben, nos petites querelles, elles paraissent bien secondaires devant la beauté du Seigneur. Et je crois que la véritable unité viendra quand les églises, au lieu de se regarder les uns les autres, là, dire, lui, c'est bon, quoi, allez, j'en ai soupé, là, ça va, ça commence à bien faire, et qu'on va commencer à regarder ensemble vers Jésus, et qu'on va voir, en fait, comment Jésus voit les autres. Et là, ça va changer tout. Et là aussi, j'aspire à ce que les maisons de prière soient des lieux d'unité, au-delà de tous les conflits, parce que Jésus, quoi. Pas parce que c'est super, pas parce que c'est génial, pas parce que c'est à la mode, mais parce que Jésus. En tant qu'Église, nous devons prier. La véritable Église, l'Église véritable, doit chercher à réussir, à accomplir, à être positionnée dans la prière. Léonard Ravenhill dit, si nous échouons en tant qu'église, si nous échouons dans le domaine de la prière, nous échouons partout. Ben, je pense que l'inverse peut être vrai aussi. Si nous réussissons dans la prière, alors tout devient possible. Seule la prière ouvre nos yeux pour la vision et allume le feu de la passion dans nos cœurs. Quelques heures de prière ensemble valent et peuvent faire bien plus que des années d'activités bien ficelées. Alors si on commence à développer cette habitude au milieu de nous, on commence par nous, une habitude, un style de vie de prière, alors qu'est-ce qui va pouvoir arrêter le mouvement que Dieu a prévu dans notre ville? La prière est le berceau de toutes les œuvres de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les grands réveils, les grands mouvements missionnaires sont nés d'une intercession fervente, souvent de gens discrets, Et je bénis les intercesseurs discrets. Je sais qu'il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Parfois, j'allais dire, c'est des personnes qui ne sont pas connues des hommes, mais qui sont connues du ciel et qui ont un grand impact. Toutes ces personnes qui prient fidèlement le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est nous le peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse, mes amis, quelle promesse! On s'humilie, on prie, on cherche Dieu, Dieu agit. Et transforme et guérit un pays, une nation. J'en ai des frissons, je sais pas vous, mais moi, waouh, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de vivre ça. Et puis dans ce verset d'Ésaïe 56, 7, tout à l'heure, il dit, c'est pour tous les peuples. La maison de prière est une notion universelle. En Jésus, nous formons un temple de pierre vivante. Vous connaissez ce passage. Pour former un temple spirituel. Un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels. C'était mes trois points. Alors, est-ce que vous arrivez à les retenir? Ouais, vas-y Alain, vas-y, t'es motivé. Vas-y, bien fort. Ouais. Le style de vie, voilà, c'est le style de vie. C'était difficile à illustrer le style de vie, mais vous comprenez que ce style de vie, c'est cette unité, c'est ce côté multi-église, c'est cette culture de la prière multi-église qui vient au milieu de nous. C'est pas toujours facile de mettre des images sur des mots, mais c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, je vais juste conclure avec ça, puis on va passer un petit temps dans l'adoration et la prière quand même aussi. On va se faire un petit plaisir. juste, je termine en disant, c'est à toi de jouer maintenant. Et je peux pas m'empêcher de vous dire quelque chose que je sens, mais qui est quelque chose que je ressens, qui n'est pas, je peux pas le dire comme une vérité absolue parce que je ne détiens pas la vérité, mais j'ai une intime conviction et je veux vraiment vous la partager. Depuis plusieurs années, j'ai un sentiment qui m'habite, qui est qu'une séparation arrive dans l'Église, et elle a déjà commencé en fait. Dans l'Église, il y a une séparation qui est en train d'être faite entre deux types de personnes. Et pour avoir visité de nombreuses églises différentes, je n'ai pas vu cette séparation entre deux dénominations. J'ai pas vu que Dieu allait approuver les catholiques et rejeter les protestants ou l'inverse. Je n'ai pas vu que les ADD avaient la vérité. Je n'ai pas vu que les églises communautaires étaient celles que était le modèle parfait de Dieu. Par contre, j'ai vu que dans toutes les églises, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu et des gens qui étaient intimes de Dieu. Dans toutes les dénominations que j'ai rencontrées. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une grâce particulière, mais Dieu, quand on est allé visiter avec mon épouse, je vous l'ai raconté déjà, 18 églises à Nantes différentes de tous horizons, des ADD, des Coréens, des protestants, des évangéliques, des baptistes, des tout ce que vous voulez en East, il nous a fait à chaque fois rencontrer des gens qui étaient intimes de Jésus, comme si en nous disant ça, c'est mes amis. J'ai des amis dans toutes sortes d'églises, dans toutes sortes de milieux. Mais Dieu cherche des amis. Pas des gens qui vont seulement utiliser la chrétienté pour vivre quelque chose loin de Dieu ou séparé de Dieu. Je crois que cette séparation, elle se fait entre les intimes et ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas un scoop, ce que je dis, hein. C'est annoncé, c'est décrit dans la parole de Dieu. Notamment au travers de cette fameuse parabole que vous connaissez des vierges folles et des vierges sages. Celles qui ont accordé de l'importance à l'intimité, à remplir leur huile, leur lampe d'huile. et celles qui ne l'ont pas fait par négligence la plupart du temps, par folie. Et qu'est-ce que l'époux dit quand il arrive à celles qui n'ont pas rempli leur lampe ? Je ne vous connais pas. Quelle terrible, c'est la plus terrible des sentences. D'imaginer qu'on est chrétien toute sa vie et que le jour où on arrive au ciel, Jésus me dise « je te connais pas ». Ça me... Non, moi je sais qu'il me dira « je te connais ». Mais c'est ça qu'on doit cultiver. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas une... Je ne mets pas une chape, vous comprenez, mais il y a un enjeu quand même. Il y a quelque chose qui se passe avec l'intimité. C'est pas... Bien sûr, c'est un kiff, bien sûr, c'est le ciel, bien sûr, c'est ces choses. Mais il y a un véritable enjeu. L'Apocalypse nous montre aussi qu'il y a deux camps, deux adorations. Une pour l'ennemi, une pour Dieu. Que c'est pas simple. Et les deux camps sont clairement identifiés par l'objet de leur adoration. Mais je crois que le mouvement de prière est aussi là pour donner un nouveau modèle, une nouvelle façon de vivre ensemble cette intimité. Et que, bah, du coup, à toi de jouer, ça veut dire participe à ce modèle. Et imagine, investis-toi dans cet espace pour Angers, parle-en autour de toi. D'abord, vis-le, évidemment, d'abord, vis-le. Si ton intimité à toi, elle est défaillante, entre guillemets, peut-être qu'il faut commencer par ton intimité à toi. Bon, on est tous en chemin, hein, on est d'accord, hein. Mais si vraiment tu as l'impression de ne pas être en relation avec Dieu, commence par là. Donc tu es appelé à t'engager d'abord. Engage-toi pour ton intimité. Voilà. Engage-toi pour ton intimité. C'est un verset de la Bible qui dit ça. 1 Timothée 4, verset 7. Il est dit « Entraîne-toi pour rester attaché à Dieu ». Suivant les versions, ça doit être... c'est pas entraîne-toi, mais c'est soit attaché à la piété, ou fais attention à ta piété, hein. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Mais c'est dans le contexte sportif que Paul dit ça. Il dit, c'est bien, tu fais du sport, ça va, c'est bien, c'est utile pour le corps, mais la piété, elle, elle est utile à tout. L'attachement à Dieu est utile à tout. Donc, veille sur ton intimité avec Dieu. Entraîne-toi à ton attachement à Dieu. Première chose. Deuxièmement, participe à ce mouvement d'intimité. Donc, viens à la maison de prière. La maison de prière n'est pas, alors je précise aussi, ce n'est pas le seul mouvement, bien entendu, hein, que je ne sois pas, je suis pas sectaire, hein, Dieu agit de plein de manières différentes, mais c'est une des façons accessibles, disponibles. Vous avez cette chance, il y en a une de maison de prière. Donc, investissez-vous. Ça veut dire, vous pouvez participer aux réunions et vous savez qu'on vit des choses intenses avec Dieu quand on participe à ces temps-là. Mais pourquoi pas, réfléchis-y, si quelque chose vibre en toi, à ouvrir, on va dire, ton temps dans un temps, une nouvelle veille dans la semaine, avec d'autres ou seul, plutôt avec d'autres si tu peux, ou au moins avec une autre personne, pour dire, bah, nous on va aussi participer à ce mouvement perpétuel d'adoration et on va essayer de mettre en place cette continuité. Ça nécessite souvent d'apprendre et de se former. Il y a des gens, vous avez de la chance, vous avez Daniel qui porte ce mouvement depuis des années et qui pourra vraiment vous guider, vous dire ce qui est important pour commencer une veille, parce que l'idée c'est pas juste de commencer, hein. Ok, c'est d'en faire un style de vie, vous avez compris. Donc il y a aussi des outils, il y a une expérience, il y a des fois où on se décourage, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Mais tout ça, ça va être aussi l'objet de la formation. Donc participe à cette intimité collective, vis-la comme un style de vie et puis transmets-le autour de toi. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu rencontres d'autres personnes, tu leur dis « mais tu sais, on est dans un mouvement d'intimité avec Dieu en ce moment. Qu'est-ce que tu penses si on passe du temps ensemble devant la présence de Dieu ?» Puis vous allez voir que il y a des personnes, ils vont rien comprendre, et puis il y a des personnes, ils vont dire « ah, mais j'attendais ça depuis si longtemps. » À Nantes, j'ai rencontré des gens comme ça, qui m'ont dit « ah bon, ça existe ? Depuis le temps que j'aspire à ça, mais incroyable ! Je veux vivre ça, oui ! Je signe où ? Viens avec moi et on va prier ensemble. » Voilà, c'était vraiment très simple, très basique. Il y aura encore plein de choses à dire sur ce qu'est une maison de prière et comment on peut fonctionner ensemble, mais on va pas tout mettre la première fois. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup. On va juste prendre un temps d'adoration ensemble, est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis, on va faire ça tout simple, hein,